Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. Et c'est la première, le premier épisode de la, oula, on en est où? Quatrième session de Positron, et même cinquième, je dirais. C'est-à-dire que nous avons, à l'épisode précédent, dit au revoir, peut-être même adieu. Non, je vais pas être aussi dramatique. Au revoir à Marion et Vivian, qui nous ont quittés pour Positron, qui ont quitté les pâturages de Positron, mais pour les remplacer.
On les a pâturages beaucoup mieux.
De... Oui, j'allais dire. Alors du coup, les pâturages, tout de suite, ça fait très bovin. Moi, j'étais parti dans ma préparation de l'introduction dans une sorte de d'imagerie poétique. Je me suis dit, tu vois, l'hiver qui commence et donc la forêt se dépeuple. Mais le printemps revient et tel des petits oisillons, mes nouveaux invités vont venir repeupler la forêt de Positron. Et non, je dis pâturage, du coup bovin et du coup c'est les vaches. Tout de suite, ça marche beaucoup moins bien.
C'est sympa.
On est le troupeau, oui. Mais bon.
D'autant plus que mes invités pour cette session, donc des quatre prochains épisodes, sont de véritables artistes, des gens de qualité, des gens qui nous font rêver. Je vais commencer avec une personne qui est très proche de moi. Métaphoriquement et presque, bon, pas physiquement tout de suite, mais en gros, bon. En gros, c'est mon frère, quoi. Daniel, wow. Comment vas-tu?
Oh, bah, ça va très bien. Ça fait plaisir de participer à Positron.
Daniel, que vous connaissez vous aussi, chers auditeurs, même si vous ne vous en rendez pas compte, puisque c'est lui qui compose les génériques de tous mes podcasts depuis un bon moment. Donc, Positron.
Il faut dire qu'ils sont magnifiques. Il faut le dire.
Ah, mais ils sont sublimes.
Oui.
Si tu sais
le
nom.
C'est la seule raison pour laquelle ils marchent.
Mais tu reçois des lettres de fans, non, en permanence.
Tu plaisantes, il y a des gens qui me disent, on a d'ailleurs donné sur le site, une collection de, des génériques des podcasts et des musiques dont ils avaient été remixés. Il y a plein de gens qui ont énormément apprécié. Vous pouvez aller les récupérer encore sur frenchspin.com. C'est un pack MP3 de Noël. Mais il y a des gens qui me disent, le générique de Positron, il me fait danser dans le métro, quoi.
C'est génial. Mais ce qui est assez drôle, c'est que ce morceau, si je te dis qu'il date de il y a 15 ans,
ben oui, je sais bien,
oui.
Tout à fait. Bon, donc on aura l'occasion de pardon.
À dire vrai, je me demandais pourquoi on voyait les gens danser dans le métro. Je viens de comprendre.
Mais voilà, c'est pour ça, exactement. On va parler un petit peu plus de ton âme musicale et tes projets en fin d'émission, Dan. Et de l'autre côté du micro, on a Gabriel, aussi un ami d'enfance et même qui m'a presque vu naître et même pas presque. C'est un grand ami depuis très longtemps. Oui, bon, on va parler.
Disons que t'étais déjà très propre quand j'ai vu.
un ami d'enfance, Gabriel Katz, auteur de livres hautement littéraires de son état.
Qui font tous danser dans le métro, ce qui est totalement incroyable.
Aussi, c'est quand même bizarre. Gabriel et Daniel, d'ailleurs, que vous avez peut-être déjà entendu dans des podcasts, puisqu'ils avaient participé à un rendez-vous tech sur les artistes et Internet, qui avait été d'ailleurs mémorable. Je suis sûr que tout le monde s'en souvient.
Qui a été primé, d'ailleurs,
oui,
dans
exactement.
Tous les festivals possibles, imaginables. Mais bon,
comme d'ailleurs, Gabriel, que encore une fois, vous le connaissez peut-être un petit peu, parce que moi, je parle de mes potes, et Gabriel a écrit Le Puits des Mémoires. Vous en avez peut-être entendu parler ici ou sur Geeking ou ailleurs encore. Le Puits des Mémoires, qui est donc une trilogie d'Heroic Fantasy. Et entre parenthèses, il y a un autre livre de Gabriel qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. On en parlera là aussi en fin d'émission. Bon, messieurs, j'espère que entre les oiseaux de la forêt et les vaches des pâturages, vous êtes parés pour quatre épisodes de folie.
On est parés, on s'est mis une grosse cloche au cou. Et on est en train de brouter pour l'instant.
Très bien. Bah écoutez, brouter pendant encore un tout petit peu de temps, parce que moi je vais commencer avec mon premier positron. Mon premier positron qui fait un petit peu honneur à la littérature, puisque c'est un livre. Ok, transition pourrie. Il n'empêche. C'est un grand monument de la littérature française, puisque je voudrais vous parler du Comte de Monte Cristo. C'est évidemment un nom que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler, que un certain nombre d'entre vous, j'imagine, auront déjà lu. Je voulais en parler parce que c'est l'un des plus, à mon sens, et je suis pas le premier à le dire, hein, c'est l'un des plus grands romans d'aventure de l'histoire des romans d'aventure.
Alors, est-ce que je peux te couper juste pour dire que ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre, parce que j'étais nègre pendant très longtemps, on me pose de temps en temps ce genre de questions, et alors, très sérieusement, on m'a demandé si j'avais écrit Moby Dick que j'étais en train de relire.
C'est pas vrai.
Voilà. Oui. Et moi, j'ai dit que, un, si je l'avais écrit, je le lirais pas, et deux, c'est quand même Moby Dick. Enfin, voilà. Désolé, c'était juste un petit aparté.
Non, effectivement, je confirme, Gabriel Katz n'a pas écrit Le Comte de Monte Cristo. C'est Alexandre Dumas. J'aurais été encore plus. Je suis déjà très honoré de t'avoir dans l'émission. J'aurais été
très,
encore
très bien vendu.
Hein, un petit peu plus. En plus. Oui, non, mais tu vois tout de suite le côté mercantile.
Pas pour moi, c'est pour mon éditeur. Moi, je suis une sorte de pur artiste, mais bon.
Donc. Le Comte de Monte Cristo, Dumas père, une histoire épique de vengeance, d'aventure, de complot sur fond historique qui fait vraiment vivre l'histoire. L'histoire, je sais pas si on a même besoin de la détailler, enfin ou en tout cas de donner envie aux gens. C'est je vais même pas raconter l'histoire, on en a même pas besoin. En fait, pour moi, ce que je vais vous dire plutôt que de vous raconter l'histoire, c'est que pendant très longtemps, j'ai pensé que la littérature c'était chiant. Pourquoi ? Parce que on m'a fait lire des choses quand j'étais au collège et au lycée, des choses que je ne pouvais pas comprendre, qui allait de, enfin comme tous les lycéens et les collégiens de France, hein, j'imagine, on m'a fait lire Le Rouge et le Noir, on m'a fait lire tout le théâtre classique, on m'a fait lire Sartre, on m'a fait lire, enfin tout ça, et c'était évidemment des choses que je ne pouvais pas comprendre parce que je pense qu'il faut avoir un certain vécu émotionnel pour être rentré en relation avec les personnages, comprendre ce qu'ils ressentent, c'est des choses très intellectuelles, tous ces classiques. Le Comte de Monte Cristo, sans avoir une qualité moindre, est quelque chose de beaucoup plus viscéral. C'est de l'aventure, c'est un truc, c'est presque un livre qu'on pourrait qualifier de livre pour jeunes adultes aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose c'est de l'aventure à l'état pur. C'est excitant, il y a de l'action, il se passe plein de choses, et en plus. On sent bien, j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais il a été écrit, c'était un feuilleton à la base, c'est-à-dire qu'il était écrit quelques pages et publié dans les livres. Donc il faut qu'il se passe dans les journaux. Donc il faut qu'il se passe des choses tout le temps.
C'était un petit peu le point de mode de l'époque. Ça, ouais.
Alors attendez, vous parlez en même temps, Philippe, tu disais ?
Je dis, c'est effectivement la mode du 19e, c'est-à-dire qu'Alexandre Dumas, c'était ça, effectivement, c'est même Jules Verne, c'était ça, c'est du feuilletoniste, en fait.
C'est les séries de l'époque, quoi.
Exactement, exactement. Tu disais, c'est le 24 de l'époque.
Ouais.
C'est aussi excitant, quoi. C'est vraiment autant 24 a amené à la série de d'action, ses lettres de noblesse, autant le Comte de Monte Cristo, pour moi en tout cas, a amené à la ça m'a ouvert un côté de la littérature que je ne connaissais pas et dont je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi attirant. Pour moi, qui était pas du tout, j'étais convaincu que j'aimais pas les livres en fait.
Quand même.
Ah non, mais c'était. Disons que.
Il t'avait dégoûté au lycée en fait.
Quand on te fait lire Madame Bovary à 15 ans, effectivement, c'est pas hyper motivant, on va dire. Enfin, je sais pas, vous avez pas eu cette.
Un petit peu, oui, aussi, un petit peu la même chose. Ça dépend des profs, hein, peut-être aussi.
J'ai commencé à lire personnellement à partir du moment où je n'étais plus obligé de lire. C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on trouve des trucs qui sont très très bien, des styles qui sont super pourris parce qu'on t'oblige et au final,
Mais je pense vraiment qu'il y a, je pense qu'il n'y a pas que la question de du fait qu'on soit obligé. Il y a aussi le fait que, enfin, à mon sens, peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, on nous faisait lire des livres qui ont une profondeur sentimentale et émotionnelle avec laquelle on n'a aucun, on n'a pas de point de repère pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, si on a quelqu'un qui est éperdument amoureux de quelqu'un d'autre ou qui est qui a le cœur brisé ou on a, enfin, je sais pas, à la recherche du temps perdu, c'est impossible.
Tu parlais de Madame Bovary tout à l'heure, par exemple, pour saisir la détresse de la bourgeoise du 19e siècle.
Exactement.
Si t'as 15 ans, t'es un peu mort.
Donc, tout ça pour dire que le comte de Monte Cristo, c'est pas uniquement pour les préadolescents. Hein. C'est quelque chose qui peut tout à fait être relu aujourd'hui quand on est adulte. Et en plus, et je vais conclure là-dessus, c'est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, il y a aucune raison de s'en priver. C'est un livre, et moi je le classifie en pour tous. Hein. C'est quelque chose que même si on n'est pas fan ni de littérature ni d'action, on peut tout à fait apprécier. C'est encore une fois un monument de la littérature française. Que tout le monde peut apprécier. Donc, vous pouvez aller sur l'iTunes Store, l'iBook Store ou le Kindle Store. Vous pouvez le trouver gratuitement, j'en suis à peu près certain. Vous téléchargez ça et vous passerez non seulement je suis convaincu que vous passerez un bon moment, mais en plus, vous ne pourrez plus le lâcher, que vous aimiez les livres ou pas. Donc, Le Comte de Monte Cristo, livre pour tout le monde.
Et ne pas voir les adaptations télé qui ont été faites, il doit y en avoir au moins trois, qui sont faites par France Télévisions il y a très très longtemps et qui sont juste super pourries. Je crois qu'il y a une adaptation américaine aussi.
Il y a une adaptation au ciné, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Ouais, qui n'est pas non plus...
Non, ça ne doit pas être fantastique. Ouais. Je pense qu'il doit faire du kung-fu, un truc du style. Je suis sûr que c'est ça.
Le conte kung-fu. Mais c'est dommage parce que c'est le genre de truc qui se prête... Peut-être que c'est un peu long, mais c'est le genre de truc qui se prête...
Il faut faire une série, justement.
Oui, ouais, c'est vrai. Ah, pas bête.
Ah, ça pourrait, il y a des romans de folie, il y a des cliffhangers. Oui, oui, ça pourrait. Hein.
On a un concept, là. Je suis sûr, là aussi, qu'on est les premiers à y penser.
Je vais essayer de la caser.
Dan, de quoi tu nous parles?
Alors, moi, je vous parlais... Oui.
Non, vas-y, je lis le titre que tu as mis dans les... Dans les notes de l'émission, et je suis interloqué, on va dire.
D'un groupe de musique de jazz manouche, parce que c'est quand même un de mes trucs que je fais depuis longtemps. Je suis fan de jazz manouche, et là c'est un groupe assez exceptionnel qui s'appelle Les Doigts de l'Homme. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le jazz manouche ou juste comme ça.
Le jazz manouche que je connais, c'est le tien, et il tue la mort. Mais le reste,
c'est gentil, mais alors là, ça tue encore plus la mort, si tu veux savoir. C'est un groupe que j'ai découvert en 2004. Un pote m'avait filé un CD et j'avais été complètement scotché. C'est un petit peu, je dirais, les punks du jazz manouche. Quoi. Bon, faut savoir que le jazz manouche, c'est beaucoup la guitare. Et là, le gars, il s'appelle Olivier Kiktef. Il est absolument monstrueux. Et c'est un album que de compositions. Alors, je vous parle de l'album 2005, là. Il porte le nom 2005, puisqu'il est sorti en 2005. Il faut savoir que souvent, les gens qui font ce style, ils vont jouer que des reprises de Django. Quasiment tous les albums que vous pouvez entendre, c'est des reprises, donc des morceaux de Django qui datent donc des années 40, 30. Donc c'est assez, au bout d'un moment, tu connais tous les morceaux et l'intérêt, c'est un petit peu dans le jeu de guitare, de violon, l'improvisation et tout ça. Et là, eux, ils font quasiment que des compositions. Donc c'est déjà une originalité et en plus, enfin, si vous aimez la guitare, vous allez halluciner sur comment il joue, quoi. C'est juste fulgurant. Donc je vous conseille d'aller écouter tout de suite Les Doigts de l'Homme et notamment l'album 2005.
Alors là, je suis embêté parce que 2005, je le trouve ni sur iTunes ni sur Amazon.
Non, il s'appelle Les Doigts de l'Homme.
Ah, d'accord, ok. C'est Les Doigts de l'Homme, ok, d'accord.
C'est le nom du groupe et c'est le nom de l'album aussi.
C'est l'album éponyme, d'accord, ok.
Ils en avaient fait un avant, mais c'est leur premier vrai, ouais.
D'accord, ok. Donc, Les Doigts de l'Homme, ils ont aussi Les Doigts dans la prise et 1910, mais toi, tu recommandes l'album qui est...
D'accord. Ouais, celui de 2005. Alors, il y a deux guitares, il me semble, contrebasse et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ou quoique, peut-être sur cet album, ils sont trois guitares. Et ils sont d'une précision vraiment, enfin c'est absolument, absolument splendide.
D'accord. Et pour que toi tu nous dises qu'un groupe de jazz manouche est bon, c'est qu'il doit être quand même très bon.
Bah voilà, je t'avais demandé si on pouvait passer des extraits.
Bah écoute, si tu as un morceau là que tu peux nous faire passer, vas-y. Moi je sais pas si j'aurai de quoi, parce que là tu me prends en dépourvu. Attends, si on passe comme ça, je sais pas si on va entendre. Alors, non. Pardon ?
Dis-moi. Non, je te demandais si tu y vas toi, tu mets un
ah
morceau.
Bah vas-y, non mais vas-y toi.
On entend quelque chose ?
Oui.
Alors voilà, c'est vraiment, enfin moi je trouve ça hyper original, c'est un petit peu, je dirais les appâts du jazz manouche, parce que ça part un petit peu dans tous les sens, tu peux avoir, bon t'as le rythme vraiment caractéristique du style, mais ils font plein de digressions dans tous les sens, ils prennent parfois la disto, ils prennent parfois ils mettent de la wah-wah un petit peu partout.
Faut peut-être préciser que c'est les appâts avec un Z.
Oui.
Oui, parce qu'il y a les appâts.
Ah. Genre un appât.
Les appâts, oui, c'est ça. Les appâts,
c'est ça. C'est ça, ouais. Bon, ceux qui ne connaissent pas appât, regardez
mais
sur Internet.
Oui, Franck, il faut préciser Franck, en fait.
Ouais, c'est ça.
D'accord,
donc,
mais
voilà,
je t'avoue que...
coup d'œil, ouais.
Ouais, je t'avoue que moi, n'étant pas un spécialiste, j'entends juste du jazz manouche, hein, là, sur
bah,
les quelques...
Tout
quelques
l'album, jours. Là, c'était ouais. Un morceau, effectivement, qui est vraiment dans le style, quoi. Mais t'as vraiment des morceaux où ils se lâchent complètement, ils prennent les guitares électriques, ils prennent le banjo, ils foutent de la saturation dessus. Enfin, ils se permettent vraiment tout. Et ils ont mis du temps à être reconnus, en fait, justement un petit peu à cause de ça, parce que c'est un peu des puristes dans ce milieu-là, et si tu fais pas ce qu'il faut comme Django, ça va pas.
Si tu te coupes pas de doigts, c'est que t'es pas un vrai, quoi.
Exactement. D'accord. Donc voilà, cherchez un peu sur Internet, voyez les vidéos, et écoutez cet album, Les Doigts de l'Homme, c'est merveilleux.
D'accord, très bien. Et en plus, c'est pas cher, je vois sur iTunes, là, c'est 5€ l'album, donc à la limite, oui, exactement. Gabriel, cher Gabriel, donc toi tu vas encore une fois là, tu vois, on parle de littérature et puis de jazz manouche, de trucs
oui,
de vrais connaisseurs. Là, tu vas élever encore plus le débat, n'est-ce pas ?
Absolument. Alors moi, donc, en bon intello et en écrivain, je vais conseiller une série ou plus exactement deux films sur une série de trois qui sont tout à fait admirables et qui vieillissent très bien. C'est la série Mad Max.
Ah, et oui. Voilà, là on sent
l'intello tout de suite. Alors Mad Max, pour ceux qui savent pas, il doit y en avoir quand même, je ne sais pas s'il y en a qui savent ou pas, c'est un film très très récent, sorti en 79, et c'est un film australien. Et donc je crois somme toute que le fond et l'histoire sont complètement perdus et il reste juste l'image. C'est-à-dire qu'on sait très bien qui est Mad Max, on sait que c'est Mel Gibson, on sait que c'est un mec en cuir avec un fusil à pompe. Pardon, avec un fusil à canoncier. Et en fait, le principe, c'est que... Oh, pardon.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
C'est l'attaque du chat.
De son.
C'est
le...
Non, non, mais on t'entend très bien,
vous
nous.
Vous m'entendez ?
Oui, 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 on t'entend très bien.
Ah, ça y est, c'est revenu. Oui. Bon, pardon. Okay. Oui. Donc le principe, il est tout simple, c'est un post-apocalyptique, et c'est, me semble-t-il, le premier post-apocalyptique au ciné, qui était relativement diffusé par rapport à ce qui est venu après. C'est-à-dire qu'après, il est venu toute une série d'imitations de Mad Max, les barbares de l'an 2000, et je ne sais pas quoi. On est assez loin de ça.
Les barbares de l'an 2000, le titre déjà t'explique.
C'est un petit peu ça. Moi, j'ai tendance à conseiller le premier... qui est extrêmement sobre, qui est l'histoire toute bête de ce bonhomme qui est dans un monde post-apocalyptique, qui se fait harceler par des barbares, justement,
des barbares, route, oui.
Et qui venge sa famille. Et le deuxième, qui est dans un monde beaucoup plus post-apocalyptique, je ne sais pas combien de temps après, une vingtaine d'années après, ou un truc comme ça. Et honnêtement, je trouve que ça n'a pas tellement vieilli. Le premier, il a quand même quelques rides. C'est-à-dire qu'au niveau du look, au niveau au niveau
Des
du.
coiffures, ça fait toujours
Oui,
très
c'est
mal, les
ça.
coiffures.
Les coiffures, les looks, le grain de l'image, etc. Tu sens quand même les années 70. Mais mine de rien, il y a un souffle encore. Et c'est le premier film où ils ont rendu à vitesse. C'est-à-dire que les caméras étaient fixées sur les pare-chocs très très bas sur la route. Et mine de rien, encore aujourd'hui, en 2013, ça dépote un peu quand même.
On est en 2014.
Ah merde,
Mais
2014.
là, c'est
Tu
fini,
vois,
en fait, ça
je vis
dépote
dans le
plus.
passé.
Mais
Ça
oui,
se voit tout de suite.
2013, ça dépotait encore, mais
Ouais.
là, ça
Ça
dépote plus,
dépote
c'est
encore un
fini.
tout petit peu.
Ouais, ok.
Je me rappelle, Patrick, je crois qu'on l'avait vu ensemble.
C'est possible, ouais.
Bon, je ne vais pas rappeler non plus la date, mais...
C'était
je
il y
crois
a un
qu'il y avait
moment.
10
Dans lequel il
ans.
faut pas rentrer.
Et... Ouais, c'est ça. Mais j'ai le souvenir que ça m'avait terrorisé. Mais
C'est
vraiment
vrai.
terrorisé, quoi. Ah oui.
Mais c'est
Enfin,
marrant
j'avais une
que...
dizaine d'années, hein, donc
Oui,
bon.
c'est
À son
sûr.
époque, en fait, il était classé X, on appelait ça pour ultra-violent.
Ouais,
Donc c'était
carrément,
extrêmement attractif pour le public. On disait, oulala, classé X pour ultra-violent, ça doit être super dingue et violent et incroyable. Bon, au final, il ne se passe pas grand-chose de terrible, de très traumatisant aujourd'hui, en 2014. C'est-à-dire que bon, il y a effectivement un petit peu de gens qui se tirent dessus, il y a de très belles poursuites de
Oh, je me
bagnole. Je
rappelle.
crois une main coupée à un moment, mais enfin, c'est
Ouais.
pas terrible.
Enfin, je me rappelle de cette scène justement où il attache un gars à une voiture.
Oui.
Il l'attache par la main et la voiture va exploser. Il y a quelque chose comme ça. Il lui donne
C'est
une
la scène
scie.
mythique, ouais.
Ouais, voilà. Mais je crois que c'est ça qui m'a terrorisé, quoi.
Oui.
J'en fais des
Bah,
cauchemars
vas-y,
après.
raconte jusqu'au bout, du coup.
Et donc il lui donne une scie en lui disant, voilà, t'as 3 minutes, la voiture va exploser. Donc soit tu te scies la main,
Il dit pour scier les menottes, il te faudra 10 minutes.
Ah
Pour
oui,
scier le
voilà, c'est ça. Ouais.
poignet, pour se scier le poignet, il te faudra 2 minutes. Donc voilà, tu fais ce que tu veux.
Ah, mais c'est horrible.
C'est ça. Je crois qu'il s'agit de la jambe, mais enfin, ça revient exactement au
Ouais.
même, effectivement.
Mais c'est vrai que Mad Max, c'était quand même un phénomène à l'époque. C'était effectivement l'ultra-violence. Et c'était, tu disais, Gab, c'était l'un des premiers post-apocalyptiques. Je suis pas sûr que le premier soit vraiment post-apocalyptique. C'est pas après
Si, quand
l'apocalypse.
même,
C'est,
si, c'est.
il se passe, c'est genre dans un futur bien pourri où vraiment c'est horrible, les gangs de la route font la loi et il y a des, enfin lui il est flic à la base. Et le deuxième, c'est carrément là, le monde c'est une sorte de, il y a que le désert et puis il y a des gangs de cannibales qui se font des vêtements de la peau des gens qu'ils dépouillent et tout ça. Enfin, j'avais l'impression que le
C'est un
premier
peu
c'était
ça.
pas après l'apocalypse encore.
Le
Peut-être que je me
premier,
trompe.
si, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y
Enfin,
a
il y a plus
encore
de.
un État et encore quelques forces policières, il y a encore un peu d'essence. Mais on commence à sentir effectivement le glissement vers une
Ouais,
société
d'accord.
qui ne tient plus la route. C'est une sorte de dystopie, en fait. C'est-à-dire
Ouais.
que petit à petit, on descend vers le pire. Et dans le
Ouais.
deuxième, c'est effectivement, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de bouffe, on mange de la bouffe pour chien, on se tue pour une petite bouteille d'eau.
Ouais, c'est un peu le film de zombies avant les zombies, quoi.
Sans zombie.
Sans zombies, bien
C'est
sûr,
le film de
mais.
zombies sans zombies, ce qui est quand même un concept.
Non, mais je veux dire, la base de. Tu sais, dans ce genre de situation, l'homme est un loup pour l'homme, tout à coup, on se méfie du mec, du voisin, alors que. Enfin bon, sauf que là, dans Mad Max, le voisin, il a des pics
Il a
en
des
fer qui lui
chaînes.
sortent de
Le
la
voisin, il a
tête.
une crête rouge,
Ouais,
il a
c'est
des
ça.
piercings partout. Oh.
C'est vrai.
Bon, alors ce que vous avez entendu, c'est mon chat qui a marché sur mon clavier. D'accord, donc visiblement, je suis toujours là, tout va bien.
Oui, tu es là, pas de problème. Ouais, donc effectivement, Mad Max, c'est vrai que ça fait un moment que j'y avais pas pensé, et c'est vraiment un classique. Faudrait que je le revoie. J'ai l'impression qu'il doit avoir vieilli quand même, mais c'est tellement vide en fait. C'est le désert partout et c'est juste des voitures et des gens avec des blousons en cuir. Je peux imaginer que ça ait pas trop trop vieilli, quoi, effectivement.
Bah, le premier, honnêtement, il a pris un petit coup de vieux visuellement, parce que bon, c'est l'Australie des années 70, sont de grandes étendues, avec rien, avec de la route.
Ouais.
Mais disons que l'effet de vitesse assez vertigineux tient quand même vraiment la route, et l'histoire est très très simple. Donc en fait, ça va encore. Le deuxième, honnêtement, il n'a pas tellement vieilli, à part peut-être... Alors, il y a les gentils et les méchants. Les méchants, honnêtement, ils sont très bien. Ils sont des crêpes, des machins, des piercings, tout ça se pourrait être des méchants aujourd'hui. Les gentils, eh ben, on sent les années 80. C'est-à-dire qu'ils ont des choucroutes sur la tête, ils sont tout en blanc avec des bandeaux de
Ah, mais il n'y a
tennis sur
pas.
le front.
Il y a looping, non? Looping.
Looping. Tu veux
Mais
dire le
oui, le
mec
gars qui
de
fait de
l'agence
l'hélicoptère,
touriste?
là. Ouais, c'est ça.
Il est dans Mad Max 2?
Mais oui, le gars qui fait de l'hélicoptère, qui est complètement taré, c'est le même, quoi.
Ah
Ah
bon?
bon? Je sais pas.
Mais non, non, mais il fait penser.
Ah, tu veux dire, c'est le même genre de personnage?
Oui, c'est ça.
Ah, d'accord.
Non, parce que c'est un Australien complètement inconnu. Je me disais, tiens, non, c'est bizarre.
Non, non, c'est pas le même acteur. Non, non, mais c'est un peu le même.
Alors, la petite faute de goût, c'est que c'est une trilogie et ça aurait mieux fait de ne pas être une trilogie parce que le 3, il est pourri. Et même à l'époque, il était pourri. Ça s'appelait Beyond Thunderdome. Je crois que c'est sous le dôme du tonnerre. Je ne sais pas. Ouais. Mad Max et le dôme du tonnerre.
Il y en a
avec,
pas eu 4.
Non, il y en a eu 3.
Il y a un quatrième qui est en rumeur, en préparation depuis.
Ah, c'est ça, ok.
Et je pense d'ailleurs que ça l'a déterré finalement les autres qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui. Je pense que ça va un petit peu relancer la machine. Bon, le 3, je le déconseille très très fortement. Il n'était vraiment pas bien à l'époque et aujourd'hui il est immonde.
Comment elle s'appelait la chanteuse?
Tina Turner, c'est
Tina Turner. Oh là là, oui, c'était
avec. Il était en lionne terrible et.
Ah, qu'est-ce qu'il était beau.
Il joue pas très très bien.
Ouais. Mais bon, effectivement, donc Mad Max 1 et 2, quand même pour les fans, hein, c'est pas pour tout le monde.
Pour les fans de films d'action et éventuellement pour les fans de Mel Gibson, puisque c'est son tout premier film en tant qu'acteur. Et honnêtement, tous les gens qui l'ont vu dans ce petit film d'action très violent ne pouvaient pas s'imaginer qu'il deviendrait Mel Gibson.
Oui, ça c'est sûr.
Vraiment, vraiment pas. Une espèce de flic dans une bagnole en train de tirer sur des méchants barbares. Il y avait assez peu de chance pour qu'il devienne la star qu'il est aujourd'hui.
Oui. Enfin, qu'il a été pendant de nombreuses années
oui,
avant
bon,
de
il a un
retomber.
Petit peu dérapé par la suite, mais c'est un peu un autre sujet.
Ok, donc Mad Max, on va très vite rappeler les trois positrons de cet épisode. Le Comte de Monte Cristo d'une part, Les Doigts de l'Homme avec l'album éponyme d'autre part, et Mad Max 1 et 2, évitez le 3 quand même, pour le film de cet épisode. Pas mal, moi je pense que c'est une bonne sélection. Elle me plaît bien.
Alors si je peux suggérer quelque chose, c'est de faire les trois en même temps. C'est-à-dire regarder Mad Max en écoutant du jazz manouche et d'un œil, tu peux lire Le Comte de Monte Cristo.
Ouais, pas bête.
Ça marche super bien.
Je pense que ça te fait une sorte de cocktail assez détonnant. Pas mal. bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Déjà, malheureusement, je suis désolé, mais il faut quand même se quitter pour mieux se retrouver. Décidément, on fait dans la poésie. Avant de se quitter tout de même, je vais donner à mes deux charmants invités l'occasion de nous parler un petit peu de ce qu'ils font sur Internet et ailleurs. Et on va commencer par mon frérot, donc Dan. Où on te retrouve sur Internet et où est-ce que les gens peuvent aller?
Eh ben, si vous voulez écouter un petit peu ce que je fais, vous pouvez aller sur le site de mon groupe Palinka, c'est palinka.fr, tout simplement. C'est plutôt aussi du jazz manouche un petit peu transformé, modernisé. Mon projet de chanson aussi, c'est danielb.fr. Ça, c'est plus traditionnel, chanson et compagnie.
Chanson française, quoi.
Voilà, chanson française. Et voilà, et puis aussi sur Twitter, Mister Daniel B.
Mister Daniel B, c'est ça.
C'est ça.
Très bien, merci Mister Daniel B. Alors attends, je suis en train d'aller sur ton site. Ah oui, si, c'est bon, il se charge. Très bien, tout va bien. Chanson française. L'album n'est pas disponible sur danielb.fr.
Pas encore. Le 17 février, exactement.
Ouais, mais alors attends, là on est en janvier quand on enregistre. Dans une dizaine de jours au moment où
c'est ça, bon, exactement.
On y est presque. Gabriel, pour ta part, est-ce que tu es sur l'internet avec des trucs sur Twitter et sur Facebook?
Ah, alors ça ne se voit pas, mais je viens de revenir d'une chasse au chat absolument extraordinaire. Il a sauté partout. Je viens de me rasseoir. Alors,
c'est bon, t'as entendu la question ou je répète?
Est-ce que je suis sur Internet?
Oui,
c'est ça.
C'est ça.
Oui. Alors oui, bon, je suis sur Facebook forcément. Il suffit de t'appeler. C'est deux fois que je dis t'appeler. Donc non, il ne suffit pas de t'appeler. Il suffit de taper Gabriel Katz sur Google. On tombe sur soit ma page Facebook, qui je crois s'appelle pompeusement Gabriel Katz officiel, parce que le Gabriel Katz tout court n'était pas à dispo. Soit sur ma page Facebook perso, où il y a un petit peu moins de monde. Donc, c'est assez facile, en fait, de me contacter par là. Et mine de rien, j'ai beaucoup, beaucoup de contacts directs avec mes lecteurs, ce qui est assez sympa.
Et effectivement, si on parle de lecteurs, on va forcément parler de livres. Katz, c'est avec un Z, hein, évidemment, pour ceux qui savent pas.
C'est ça, comme son nom n'indique pas.
K-A-T-Z. Et alors le truc dont moi je veux parler bien sûr, c'est la sortie du dernier Gabriel Katz, à savoir La Maîtresse de Guerre. Certains d'entre vous se souviennent sans doute, comme je le disais, du Puits des Mémoires, qui était la première trilogie que tu avais sortie dans ce monde d'Heroic Fantasy. Et le nouveau livre, qui est pas vraiment une suite, qui est un petit... dans le même univers, on va dire, mais qui est sorti il y a quelques deux semaines, c'est La Maîtresse de Guerre, que moi j'ai lu bon, un petit peu en avance, hein, et que j'ai
privilégié,
et que j'ai adoré aussi. Bon, je suis un petit peu biaisé, mais que j'ai vraiment adoré. C'est un petit peu différent quand même du Puits des Mémoires, hein.
C'est un petit peu différent. Disons que bon, déjà c'est beaucoup plus au sud, parce que je me suis caillé les miches pendant 3 tomes avec de la glace et des glaciers, donc je suis descendu très très au sud. Et surtout là où c'est différent, c'est que le Puits des Mémoires a 3 petits bonshommes pour héros, donc je me suis coltiné sur 3 fois 400 pages, 3 mecs. Et je me suis dit bon, finalement, je vais tester un truc qui me paraissait assez intéressant, c'est une femme. En me disant, voilà, mon héroïne, ça va être, elle va s'insérer dans le même monde. Eux, somme toute, ça va pas changer grand chose. Oui. Et en fait, non, je me suis trompé. C'est-à-dire que je me suis aperçu que mon monde, c'est moi qui l'ai créé, c'est assez con, mais il est totalement macho. Et donc, elle a les plus grands problèmes à s'y intégrer. Donc, quelque part, ça m'a servi à construire mon bouquin complètement autour de ça. C'est quelque part un bouquin féministe, mais c'est vraiment tout le mal qu'elle a, elle. Femme combattante a essayé de s'insérer dans un univers où on ne veut pas d'elle. Une femme, c'est à la cuisine, une femme, ça s'occupe de ses enfants et elle ne veut pas.
Dans ton univers.
Mais, non, absolument. Mais non, en général.
Oui,
en général.
Oui, alors que dans la vraie vie, les femmes n'ont aucun problème, la parité est parfaite, tout va bien. Ils peuvent tout faire dans tous les pays, c'est merveilleux. Mais non, en fait, non, dans mon univers, c'est plus difficile.
Ouais. Donc effectivement, moi je savais pas trop ce que j'allais y trouver dans le bouquin et au final j'ai été vraiment, je vais pas dire agréablement surpris parce que j'aime ce que t'écris, mais j'ai vraiment été accroché. Je l'ai lu en je sais pas deux jours, comme les autres en même temps, mais j'ai vraiment été accroché à son histoire. C'était pas exactement ce que je pensais que ça serait en entendant le titre La Maîtresse de Guerre, et au final c'est vraiment, enfin c'est haletant, on est pris dans le truc du début à la fin. Et je vais arrêter d'en dire des compliments parce que les gens vont croire que j'essaye de le vendre artificiellement.
Non, puis au bout du compte ils vont être super déçus, ils vont dire merde, on m'a dit c'était bien, en fait c'est juste pourri.
Donc bon, bref, voilà, la Maîtresse de Guerre est disponible aussi sur en Kindle. Il sera peut-être disponible sur l'iBook Store, mais en Kindle à 12 €. Et entre parenthèses, la trilogie du Puits des Mémoires, je ne sais pas si ça va continuer, mais elle est à 5 € pièce en Kindle et sur iBooks. Donc si vous ne l'avez pas découvert, vous pouvez tester le premier. C'est vraiment pas cher payé pour le bouquin, je trouve. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le téléachat de Positron, mais c'est sincère. Et dis-moi, Dan, tant qu'à faire, puisqu'on fait la promo de tout le monde, sur palinka.fr, on peut acheter les albums aussi ou...
Oui, on peut les acheter en direct sur le site uniquement. On n'est pas encore sur les plateformes iTunes et compagnie.
D'accord.
Mais voilà, c'est disponible en téléchargement sur le site pour le moment.
Très bien. Bon, donc on peut aussi acheter Palinka sur Internet, c'est bien. Très bien. Eh ben, écoutez, pour
Mais
ma part...
Mais toi, Patrick, où te retrouve-t-on?
Ah, pas mal. On sent qu'il y en a un qui a écouté les épisodes précédents. Très bien, Dan. Je suis très fier de toi. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter. T'as dit ton compte Twitter, Gab? GabriCats, non?
C'est oui, c'est @GabriCats.
Ouais. Et pourtant, j'ai beau lui dire, va sur Twitter, fais des trucs, machin, il pas trop.
Je suis très épisodique sur Twitter. Je suis très souvent sur Facebook, sur Twitter.
J'essaye de le convaincre, mais il est pas convaincu par Twitter. Note Patrick pour ma part, mais surtout vous pouvez aller sur le site qui héberge les émissions, sur frenchspin.com, et là-dessus vous aurez les notes de l'émission, les détails sur différentes choses, et bien sûr vous pourrez commenter l'épisode et nous dire ce que vous avez pensé de la recommandation ou ce que vous voulez sur cet épisode. Vous pouvez le faire donc sur frenchspin.com. On va conclure cet épisode et on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau Positron. Merci à tous. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Oh, 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 oh
bientôt.